Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises?
Voilà. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
Il faudrait que je lise l'affiche.
Oui, l'affiche. Allez-y.
Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises?
Oui, on a compris. On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous, donc?
En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme.
Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait?
Ouais, beaucoup, ouais.
Parfait.
Une question pour Nathalie.
C'est ça, Jean-Pierre, bravo.
Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme?
C'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Du son en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme.
Parfait, vous êtes satisfait, Jean-Pierre?
Oui, j'étais satisfait de la réponse.
Bien le bonsoir, chers auditeurs. Et si vous n'étiez pas déjà là, bienvenue sur Transistor pour ce nouveau numéro en direct de l'émission Les yeux ont des oreilles. Comme vous l'aurez peut-être compris avec cette magnifique introduction, nous allons aborder aujourd'hui les tentatives de séduction les plus pathétiques et les plus ratées de la littérature. Et pour cela, j'ai autour de moi une équipe exclusivement féminine, avec Alice et Marie. Dans cette émission, il y aura du rire, j'espère, mais aussi et surtout, la possibilité de réfléchir au travers des textes sur le sens de cette écriture de l'échec et de la farce, entre pure comédie et limite tragique du langage amoureux.
Et nous commençons avec une scène de comédie inoubliable dans Madame Bovary de Flaubert. Tandis que Rodolphe essaie de séduire Emma Bovary lors des comices agricoles, des beuglements de taureaux et des phrases d'administrateurs se mêlent aux soupirs d'amour et discréditent le discours amoureux en le réduisant à une simple farce.
Du magnétisme, peu à peu, Rodolphe en était venu aux affinités. Et tandis que Monsieur le Président citait Cincinnatus à sa charrue, Dioclétien plantant ses choux, et les empereurs de la Chine inaugurant l'année par des semailles, le jeune homme expliquait à la jeune femme que ces attractions irrésistibles tiraient leur cause de quelque existence antérieure. Ainsi, nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? Quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Et il saisit sa main.
Elle ensemble de bonne culture,
cria le président. Tantôt, par exemple, quand je suis venue chez vous...
À Monsieur Bizet de Quincampoix.
Savais-je que je vous accompagnerais?
70 francs.
100 fois même, j'ai voulu partir et je vous ai suivi. Je suis restée.
Fumier.
Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie.
À Monsieur Caron, d'Argueil, une médaille d'or.
Car jamais je n'ai trouvé dans la société de personne un charme aussi complet.
À Monsieur Bain de Givry-Saint-Martin.
Aussi, moi, j'emporterai votre souvenir.
Pour un bélier mérinos.
Mais vous m'oublierez. J'aurais passé comme une ombre.
À Monsieur Bello de Notre-Dame.
Oh non, n'est-ce pas? Je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie.
Race porcine, prix ex aequo. À Messieurs Le Hérissé et Culembourg, 60 francs.
Rodolphe lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. Mais soit qu'elle essaya de la dégager, ou bien qu'elle répondit à cette pression, elle fit un mouvement des doigts. Il s'écria « Oh, merci! Vous ne me repoussez pas, vous êtes bonne, vous comprenez que je suis à vous. Laissez que je vous vois, que je vous contemple. » Un coup de vent qui arriva par les fenêtres fronça le tapis de la table et sur la place, en bas, tous les grands bonnets des paysannes se soulevèrent comme des ailes de papillons blancs qui s'agitent.
« Emploi de tourteaux, de graines oléagineuses !»
continua le président. Il se hâtait.
Engrais flamand, culture du lin, drainage, beau à long terme, service de domestique.
Rodolphe ne parlait plus. Il se regardait. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches, et mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent. Dans Orgueil et préjugés, Jane Austen dépeint avec piquant et ironie la société de son temps. Et aucun de ses personnages n'y échappe. Elle dresse ici le portrait du pauvre Monsieur Collins, grande cible des moqueries d'Austen et d'Elizabeth Bennet. Elle expose ses velléités de séduction et de mariage, qu'on devine bien vite vouées à l'échec.
Mr. Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. Son père, sous la direction duquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, était un homme avare et illettré, et lui-même, à l'université où il n'était demeuré que le temps nécessaire pour la préparation de sa carrière, n'avait fait aucune relation profitable. le rude joug de l'autorité paternelle lui avait donné dans les manières une grande humilité que combattait maintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre et enivré par une prospérité rapide et inattendue. Une heureuse chance l'avait mis sur le chemin de Lady Catherine de Bourgh au moment où le bénéfice d'Unsford se trouvait vacant. Et la vénération que lui inspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu'il avait de lui-même et de son autorité pastorale, faisait de Mr. Collins un mélange singulier de servilité et d'importance, d'orgueil et d'obséquiosité. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréables qu'on le disait communément. C'était là le plan qu'il avait formé pour les dédommager du tort qu'il leur ferait en héritage, en héritant à leur place de la propriété de leur père. Et il le jugeait excellent. N'était-il pas convenable et avantageux pour les Bennet, en même temps que très généreux et désintéressé de sa part? La vue de ses cousines ne changea rien à ses intentions. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir. Mais, le lendemain matin, il lui fallut modifier ses projets. Dans un bref entretien qu'il eut avant de déjeuner avec Mrs. Bennet, il lui laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-ci répondit avec force sourire et mine encourageante qu'elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunes filles, mais que l'aînée, c'était son devoir de l'en prévenir, serait sans doute fiancée d'ici peu. Mr. Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth. C'était ce qu'il fit pendant que Mrs. Bennet tisonnait le feu. Elizabeth, qui, par l'âge et la beauté, venait immédiatement après Jane, était toute désignée pour lui succéder. Cette confidence remplit de joie Mrs. Bennet, qui voyait déjà deux de ses filles établies, et de ce fait, l'homme dont la veille encore le nom seul lui était odieux, se trouva promu très haut dans ses bonnes grâces. Lydia n'oubliait point son projet de se rendre à Meryton. Ses sœurs, à l'exception de Mary, acceptèrent de l'accompagner, et Mr. Bennet, désireux de se débarrasser de son cousin qui depuis le déjeuner s'était installé dans sa bibliothèque où il l'entretenait sans répit de son presbytère et de son jardin, le pressa vivement d'escorter ses filles, ce qu'il accepta sans se faire prier. Mr. Collins passa le temps du trajet à émettre solennellement des banalités auxquelles ses cousines acquiesçaient poliment. Mais, sitôt entrées dans la ville, les deux plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindre intérêt. Elle fouillait les rues du regard dans l'espoir d'y découvrir un uniforme, et il ne fallait rien moins qu'une robe nouvelle ou un élégant chapeau à une devanture pour les distraire de leurs recherches. Bientôt, l'attention des demoiselles Bennet fut attirée par un inconnu jeune et d'allure distinguée qui se promenait de long en large avec un officier de l'autre côté de la rue.
Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je les ai apportées de bonbons. J'espère qu'on pourra se promener. Madame, votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons.
Dans cet extrait de La cousine bête de Balzac, le capitaine Crevel se rend chez la femme de son rival, le baron Hulot, en espérant la séduire et lui proposant l'adultère. Certain de ses atouts, il devient sous la plume de Balzac et dans la répartie sans aucune concession de Madame Hulot, un personnage particulièrement burlesque et pathétique. En quelques mots, elle réduit à zéro toute son assurance et ses idéaux sur l'amour, lui tendant le miroir ridicule de ses postures d'apparat.
À la manière seulement dont le capitaine accepta les services du cocher pour descendre du Milord, on eût reconnu le quinquagénaire. Il y a des gestes dont la franche lourdeur a toute l'indiscrétion d'un acte de naissance. Le capitaine remit son gant jaune à sa main droite et, sans rien demander au concierge, se dirigea vers le perron du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air qui disait « Elle est à moi ». Après avoir sonné, le capitaine bourgeois fit de grands efforts pour remettre en place son habit, qui s'était autant retroussé par derrière que par devant, poussé par l'action d'un ventre piriforme. Admis aussitôt qu'un domestique en livrée l'eût aperçu, cet homme important et imposant suivit le domestique qui dit en ouvrant la porte « Monsieur Crevel ». Si vous voulez me suivre par ici, monsieur, nous serons beaucoup mieux que dans ce salon pour causer d'affaires, » dit Madame Hulot en désignant une pièce voisine qui, dans l'ordonnance de l'appartement, formait un salon de jeu. Cette pièce n'était séparée que par une légère cloison du boudoir dont la croisée donnait sur le jardin, et Madame Hulot laissa Monsieur Crevel seul pendant un moment, car elle jugea nécessaire de fermer la croisée et la porte du boudoir afin que personne ne pût y venir écouter. Il se regardait dans la glace, par-dessus une vieille pendule en pierre, en se passant lui-même en revue, quand le froufrou de la robe de soie lui annonça la baronne. Il se remit en position. « Ces précautions que vous prenez, madame, seraient d'un charmant augure pour un amant, » répliqua-t-elle en interrompant le garde national. « Le mot est faible, » dit-il en plaçant sa main droite sur son cœur et roulant des yeux qui font presque toujours rire une femme quand elle leur voit froidement une pareille expression. « Amant, amant, dites-vous, dites, ensorcelé. » « Écoutez, monsieur Crevel, » reprit la baronne trop sérieuse pour pouvoir rire, « vous avez 50 ans, c'est 10 de moins que monsieur Hulot, je le sais. Mais à mon âge, les folies d'une femme doivent être justifiées par la beauté, par la jeunesse, par la célébrité, par le mérite, par quelques-unes des splendeurs qui nous éblouissent au point de nous faire tout oublier, même notre âge. Si vous avez 50 000 livres de rente, votre âge contrebalance bien votre fortune. Ainsi, de tout ce qu'une femme exige, vous ne possédez rien. Et l'amour ? Dit le garde national en se levant et s'avançant. Un amour qui... Non, monsieur. De l'entêtement et de l'amour, reprit-il. Mais aussi quelque chose de mieux. Des droits. Des droits ? S'écria Madame Hulot qui devint sublime de mépris, de défi, d'indignation. Mais, reprit-elle sur ce ton, nous ne finirons jamais, et je ne vous ai pas demandé de venir ici causer de ce qui vous en a fait bannir, malgré l'alliance de nos deux familles. Je l'ai cru. Encore, reprit-elle. Ne voyez-vous pas, monsieur, à la manière leste et dégagée dont je parle d'amant, d'amour, de tout ce qu'il y a de plus scabreux pour une femme, que je suis parfaitement sûre de rester vertueuse ? Je ne crains rien, pas même d'être soupçonnée en m'enfermant avec vous. » Dans La promesse de l'aube, roman autobiographique publié en 1960, Romain Gary raconte avec humour et tendresse ses tentatives désespérées pour séduire son premier amour d'enfance, Valentine.
J'avais déjà près de 9 ans lorsque je tombais amoureux pour la première fois. Je fus tout entier aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle, et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche et elle tenait une balle à la main. Je l'ai vue apparaître devant moi dans le dépôt de bois, à l'endroit où commençaient les orties, qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger voisin. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolue à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eut plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l'avait dit. Et, m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes. Mais la cruelle, pendant tout ce temps-là, continua à jouer avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressée. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi. Mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Complètement décontenancée par cette indifférence, alors que tant de belles dames, dans le salon de ma mère, s'étaient dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle et ayant, ainsi, du premier coup, épuisé pour ainsi dire mes munitions, j'essuyai mes larmes, et capitulant sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça, comme en passant, « Jeannec a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste. » C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec les noyaux, 1 souris. Et pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne, à ma connaissance, n'est jamais venu égaler. Je mangeais pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que, lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés à la vantardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limites et ils ne vous font grâce d'aucun détail. Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que, pour ma bien-aimée, je consommais encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kilo de noyaux de cerise. Valentine me mâchait, pour ainsi dire, la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les noyaux. Et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique.
Si la première fois tu ne réussis pas, il faut essayer une seconde fois. Si la seconde fois tu ne réussis pas, il faut essayer une troisième fois. De séduire la fille que tu vois déjà entrer dans ta vie et se blottir tout contre toi. De séduire la fille que tu vois déjà au 7e ciel et même au-delà. La 4e fois, si tu ne réussis pas, il faut essayer une 5e fois. Et la 5e fois, si tu ne réussis pas, il faut essayer une 6e fois.
Dans la scène de première rencontre de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Solal, grimé en vieux juif repoussant, s'est introduit dans la chambre d'Ariane et tente de la séduire à l'aide d'un discours plein d'emphase, de belles images à répétition. Ses efforts se solderont par un échec, puisqu'Ariane lui jette un verre à la figure. À la fin de cette scène, Solal quitte son déguisement et promet à la Belle qu'il saura la séduire.
Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer un peu. Et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps, et le soleil, et la mer tiède, et sa transparence près du rivage, et ma jeunesse revenue, et le monde était né, et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes d'elles annonciatrices et servantes. Et maintenant, écoutez la merveille. Lasse d'être mêlée aux ignobles, elle a fui la salle jacassante des chercheurs de relations et elle est allée, volontaire bannie, dans le petit salon désert à côté. Elle, c'est vous. Volontaire bannie comme moi, elle ne savait pas que derrière les rideaux je la regardais. Alors, écoutez, elle s'est approchée de la glace du petit salon, car elle a la manie des glaces comme moi, manie des tristes et des solitaires. Et alors, seule et ne se sachant pas vue, elle s'est approchée de la glace et elle a baisé ses lèvres sur la glace. Notre premier baiser, mon amour. Ô ma sœur folle, aussitôt aimée, aussitôt mon aimée par ce baiser à elle-même donné. Ô les lancers, ô ces longs cils recourbés dans la glace, et mon âme s'est accrochée à ces longs cils recourbés. Un battement de paupières, le temps d'un baiser sur une glace, et c'était elle, elle, à jamais. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Voilà, et lorsqu'elle est retournée dans la grande salle, je ne me suis pas approchée d'elle, je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas voulu la traiter comme les autres. Ô elle dont je dis le nom sacré dans mes marches solitaires et mes rondes autour de la maison où elle dort, et je veille sur son sommeil, et elle ne le sait pas. Et je dis son nom aux arbres confidents, et je leur dis, fou des longs cils recourbés, que j'aime celle que j'aime, et qui m'aimera, car je l'aime comme nul autre ne saura. Et pourquoi ne m'aimerait-elle pas celle qui peut d'amour aimer un crapaud, et elle m'aimera, 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 la non-pareille m'aimera, et chaque soir j'attendrai tellement l'heure de la revoir, et je me ferai beau pour lui plaire, et je me raserai de si près pour lui plaire, et je me baignerai longtemps pour que le temps passe plus vite, et que, et tout le temps penser à elle, et bientôt ce sera l'heure. Ô merveille, ô chant dans l'auto qui vers elle me mènera, vers elle qui m'attendra, vers les longs cils étoilés, ô son regard tout à l'heure quand j'arriverai, elle sur le seuil m'attendant, élancée et de blanc vêtue, prête et belle pour moi. » Il lui sourit et elle eut un tremblement, baissa les yeux. Atroce ce sourire sans dents, atroce ces mots d'amour hors de cette bouche vide. « Devant toi, me voici, » dit-il. Ridiculement, il plia le genou devant elle, puis il se leva et il alla vers elle et leur premier baiser. Alla avec son noir sourire de vieillesse, les mains tendues vers elle qui rachetait toutes les femmes, la première humaine, qui soudain recula. Recula avec un cri d'épouvante et de haine, heurta la table de chevet, saisit le verre vide, le lança contre la vieille face. Il porta la main à sa paupière, essuya le sang, considéra le sang sur sa main, et soudain, il eut un rire et il frappa du pied.
Dans les réparties de Nina, Arthur Rimbaud fait montre de sa virtuosité et de son sens de l'humour. Vilain garçon de la littérature française, il se joue de son lecteur et de ses attentes. Ce poème est à son image. Il se moque de la tradition et des poèmes d'amour. Tout est conventionnel dans cette déclaration d'amour. Et pourtant,
lui. Ta poitrine sur ma poitrine, hein ? Nous irions, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons, du bon matin bleu qui vous baigne du vin de jour. Quand tout le bois frissonnant saigne muet d'amour, de chaque branche, goutte verte, de bourgeon clair, on sent dans les choses ouvertes frémir des chairs. Tu plongerais dans la luzerne ton blanc peignoir, rosant à l'air ce bleu qui cerne ton grand œil noir. Amoureuse de la campagne semant partout, comme une mousse de champagne, ton rire fou. Riant à moi, brutale d'ivresse, qui te prendrait comme cela, la belle tresse, oh, qui boirait, ton goût de framboises et de fraises, aux chairs de fleurs, riant au vent vif qui te baise comme un voleur. Aux roses églantiers qui t'embêtent, aimablement, riant surtout aux folles têtes, à ton amant. Ta poitrine sur ma poitrine, mêlant nos voix, lent nous gagnerions la ravine, puis les grands bois. Puis, comme une petite morte, le cœur pâmé, tu me dirais que je te porte, l'œil mi-fermé. Je te porterai palpitante dans le sentier. L'oiseau filerait son andante au noisetier. Je te parlerai dans ta bouche, j'irai pressant ton corps comme une enfant qu'on couche ivre du sang, qui coule bleu sous ta peau blanche au tout rosé, et te parlant la langue franche, tiens, que tu sais. Nos grands bois sentiraient la sève, et le soleil sablerait d'or fin leurs grands rêves vert et vermeil. Le soir, nous reprendrons la route, blanche qui court, flânant comme un troupeau qui broute tout alentour. Les bons vergers à l'herbe bleue, aux pommiers tords, comme on les sent toute une lieue, leur parfum fort. Nous regagnerons le village, au ciel mi-noir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Ça sentira l'étable pleine de fumier chaud, plein d'un lent rythme d'haleine et de grande eau, blanchissant sous quelques lumières, et tout là-bas, une vache fiantera fière à chaque pas. Les lunettes de la grand-mère et son nez long dans son micelle, le pot de bière cerclé de plomb, moussant entre les larges pipes qui, crânement, fument, les effroyables lippes qui, tout fumant, happent le jambon aux fourchettes, tant et plus, le feu qui claire les couchettes et les bahuts. Les fesses luisantes et grasses du gros enfant qui fourre à genoux dans les tasses son museau blanc, frôlé par un mufle qui gronde d'un ton gentil et pourlèche la face ronde du cher petit. Que de choses verrons-nous, chers, dans cet audit, quand la flamme illumine, claire, les carreaux gris. Puis, petite et toute nichée dans les lilas, noirs et frais, la vitre cachée qui rit là-bas, tu viendras, je t'aime, ce sera beau, tu viendras, n'est-ce pas, et même, elle, et mon bureau.
Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Pour les extraits audio, nous avions un extrait des Inconnus, Les bonbons de Jacques Brel et ce magnifique morceau qui est Séduction 13 d'Alain Barrière. Merci à Alice et Marine pour la lecture des textes et nous retrouverons sans plus tarder Nicolas pour J'aime beaucoup ce que vous dites.
Merci Eva, Alice et Marie pour cette jolie parenthèse littéraire. Pour cette dernière demi-heure de direct, c'est à toi de jouer, ou plutôt de faire jouer Nicolas, avec ton arsenal de rébus, charades et autres mots croisés. Nous n'avons qu'à souhaiter bon courage à tes invités, Julien et Pierre, et à nos auditeurs qui voudront s'essayer à tes énigmes redoutables. On se retrouve tout à l'heure pour le Flash Info et la conclusion, mais tout de suite, place au jeu.